Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma.
Bonjour à tous, bienvenue dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. Aujourd'hui, nous allons donner la parole à des entreprises françaises, des entrepreneurs qui se sont engagés dans la lutte contre le Covid et qui, pour certaines de ces entreprises, ont changé leur façon de produire pour justement participer à l'effort de guerre. Et aujourd'hui, elles se trouvent pour certaines au bord de la faillite. On va en parler, c'est tout de suite dans C'est ça la France.
Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma.
Et j'ai envie de dire leur ambassadeur, leur porte-parole, c'est Léonidas Kalogeropoulos qui est avec nous en studio. Bonjour Léonidas.
Bonjour.
Vous êtes président d'un cabinet d'affaires public et le fondateur d'Entrepreneurs pour la République. Donc vous faites partie donc de ce réseau Entrepreneurs pour la République. Expliquez-nous en quoi il consiste ce réseau.
Alors c'est un réseau, d'abord c'est une plateforme numérique.
Gratuite, accessible à tous.
Gratuite, accessible à tous, qui met en avant des problématiques d'intérêt général et qui lève des bataillons d'entrepreneurs pour s'attaquer à ces problématiques. Et nous l'avons lancé le 9 mars avec un sujet prioritaire qui était d'éviter qu'on soit pris par surprise par les nouvelles vagues, les nouveaux variants qui font qu'on est obligé de repartir, d'arrêter. Et donc nous avons sollicité le tissu entrepreneurial pour dire bah, est-ce que vous avez des solutions ? Et notre surprise a été une très très bonne surprise. On a eu des dizaines d'entreprises.
Ouais. Elles ont été très réactives.
Ouais. Elles ont été extrêmement réactives et surtout d'une créativité exceptionnelle, avec un savoir-faire français que je pense nous sous-estimons beaucoup trop. Mais nous avons vu apparaître des surfaces virucides, des destructeurs de virus, des détecteurs de virus, très importants, des tests salivaires, des tests dans les eaux usées pour pouvoir les détecter.
Et parfois, comme vous le disiez, avec une vitesse incroyable. Je pense notamment à Vitmados qui a été créé en quelques jours par un jeune entrepreneur.
Absolument.
C'est vrai, dans des délais très courts.
Des délais très très courts, ouais. Parce que vous avez des gens qui ont un savoir-faire et qui se disent ben, mon savoir-faire peut être mobilisé pour répondre à une urgence, celle du moment, ou alors à des problématiques plus long terme, puisque nous l'avons lancé vraiment très très précipitamment le 9 mars pour nous attaquer à ce sujet, mais il est clair que cette plateforme a vocation à faire la même chose sur tous les problèmes d'intérêt général que rencontre notre pays.
Donc vous avez créé la première filière industrielle anti-Covid Made in France pour défendre justement les solutions Made in France. Combien de solutions aujourd'hui Made in France ?
Alors nous avons fait un tri parmi nos solutions. On a plus de 70 solutions sur la plateforme, mais nous avons fait un sous-ensemble rassemblé au sein de ce comité des industries françaises de la lutte anti-Covid. Et ce sous-ensemble répondait à une préoccupation de nos interlocuteurs publics, parce qu'on a rencontré tous les ministères sur ce sujet. Vous le raconterez peut-être comment nous avançons. Et ils nous ont demandé, est-ce que vous pouvez nous garantir que ces entreprises ont des solutions totalement éprouvées, sécurisées en termes de performance? Et donc ce sous-ensemble, ce sont toutes les entreprises qui ont soit des certifications, soit des tests de laboratoire ou des marquages CE. Et donc nous avons distinguer une vingtaine d'entreprises. Et cette vingtaine d'entreprises, c'est ce comité. Toutes les autres sont sur la plateforme. Mais ce comité restreint un peu le cercle. Elles sont ou bien françaises, ou bien elles ont des salariés en France qui commercialisent des solutions qui sont partiellement produites en France. Pour la plupart d'entre elles, elles fabriquent en France, elles ont des salariés en France, elles sont partout sur le territoire.
Elles créent
la
richesse sur le
territoire.
Vous avez des
grandes, des petites, des start-up. C'est absolument extraordinaire et véritablement dans tous les domaines. Elles ont même réussi, je vous dis ça parce que c'est une immense satisfaction, à dialoguer entre elles parce qu'elles se sont rencontrées à travers la plateforme et à démarcher ensemble des utilisateurs potentiels de leurs solutions en les combinant. Parce que vous en avez à Colmar qui font des destructeurs de Covid par lampe UV, vous en avez d'autres en Bretagne qui ont des peintures virucides, vous voyez, moi je ne savais pas qu'il y avait des peintures virucides. Vous avez d'autres à Marseille qui font de la détection de virus dans les eaux usées. Et bien tout ça, ce sont des solutions complémentaires les unes des autres. Ça répond à des problématiques.
Elles ont recréé un écosystème en
Mais
fait.
On a, en quelques mois, créé un écosystème qui d'ailleurs fascine nos interlocuteurs publics parce que c'est une vraie filière industrielle. Enfin, elle est née sous nos yeux. Et pardonnez-moi, c'est fascinant de voir que si vous en appelez au pays, vous savez, c'est un peu comme les ennemis sont à proche de la Marne, qu'est-ce qu'on fait? Et puis vous avez les taxis de la Marne qui amènent les forces.
La patrie en danger, tout ça, la patrie.
La patrie est en danger. Et donc si vous dites, on a un problème ensemble, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez des bataillons des régiments d'entrepreneurs. Et pardonnez-moi de le dire ainsi, de façon un peu abrupte, mais je pense que quand on voit la créativité de notre pays, mobiliser des bataillons d'entrepreneurs pour apporter des solutions aux problèmes d'illettrisme, aux problèmes des banlieues, aux problèmes de l'environnement, à tous les problèmes que rencontre notre pays, eh bien c'est ça, Entrepreneurs pour la République. Et il n'y a pas un sujet, pas un, que nous n'allons pas aborder.
Alors justement, les entreprises, nous sommes en ligne avec Alexandra Dumont, que vous connaissez,
sûr,
de Bronze Alloa. Bonjour Alexandra.
Bonjour madame.
Vous faites partie effectivement du comité. Alors justement, vous, expliquez-nous déjà votre cœur de métier et on va après comprendre justement pourquoi vous avez rejoint justement ce mouvement.
Bien sûr, donc le groupe Le Bronze Alloa, c'est une société industrielle de 850 personnes spécialisées dans la fabrication d'alliage de haute technologie à base de cuivre et de nickel. Ouais.
Alors vous êtes, on l'a bien compris, hein, vous êtes à la pointe de l'innovation avec des matériaux hautement performants. Et donc, pendant cette crise du Covid, comment avez-vous réagi et justement, comment avez-vous réussi à participer, comme je le disais, à l'effort de guerre?
Et ben en fait, nous, l'histoire, elle a même commencé il y a 10 ans, parce qu'on a créé une marque qui s'appelait Stérial, dont en fait, les propriétés antimicrobiennes du cuivre étaient utilisées pour développer notamment des produits comme des poignées de porte. Et évidemment, dans le cadre de la crise Covid, ça nous a paru évidemment pertinent de remettre en avant ce produit-là et de le rendre surtout le rendre accessible au plus grand nombre. Donc ça, ça a vraiment été le défi dans le cadre de la crise Covid.
Vous avez investi pour l'améliorer. Vous avez ressorti ce produit-là, cette innovation-là, et donc vous avez investi, j'imagine, pour pouvoir justement, vous le disiez à l'instant, le rendre plus accessible.
Voilà, donc par exemple, on s'est mis à faire du B2C sur nos poignées de porte qu'on n'avait jamais fait avant, donc en mettant en ligne un site pour voilà, que les particuliers puissent notamment acheter ces produits-là. Et puis on a après aussi élargi notre gamme pour là aussi répondre aux besoins de nos différents partenaires et interlocuteurs.
D'ailleurs, vous êtes aussi à l'Assemblée nationale.
Et oui, ça c'est notre petite anecdote. Aujourd'hui, nos poignées de porte qui tuent 99% des bactéries et des virus en moins d'une heure se retrouvent dans les toilettes de l'Assemblée nationale pour protéger notre nation. Voilà.
Alors expliquez-nous justement...
Un symbole formidable quand même.
Oui, c'est vrai, un symbole formidable, je suis d'accord. Léonidas, vous avez bien raison de le préciser. Alors pourquoi avez-vous souhaité rejoindre ce manifeste, le manifeste des entrepreneurs pour la République?
Eh ben écoutez, déjà ça me paraissait une très belle opportunité de pouvoir mettre en avant un savoir-faire français et des entreprises qui se bougent hein, littéralement pour faire évoluer les choses. Et évidemment le contexte Covid a sensibilisé autour de la problématique antimicrobienne, mais c'est quand même un sujet sociétal de fond. Aujourd'hui, 33 000 personnes en Europe décèdent des bactéries résistantes aux antibiotiques, etc. Donc c'est quand même un sujet qui va bien au-delà du contexte du simple Covid. Et plus on se regroupe, plus on peut faire parler de nos produits, plus avec cette force collective, on peut avancer, mieux ça me semble pour notre collectivité global.
Donc vous faites partie de ces entrepreneurs qui sont mobilisés pour trouver donc des solutions au pied levé. Aujourd'hui, vous avez le sentiment d'être toujours accompagné ou pas du tout?
Alors aujourd'hui, nous, dans le cadre de notre marque Stériel, on a été accompagné notamment par la région, parce que comme il y a eu énormément de recherche et développement, d'études sur le terrain, on a été bien accompagné. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que pour certaines startups ou des entreprises qui sont moins implémentées dans leur territoire, c'est peut-être un peu plus compliqué. D'où alors, aussi l'intérêt de ce type de collectif.
Léonidas Kalogiropoulos, aujourd'hui, donc, au niveau des commandes publiques, hein, malheureusement, de nouveau, beaucoup de commandes se font auprès des fournisseurs étrangers, et notamment chinois, pour, je pense notamment aux masques et sûrement à d'autres gels antibactériens et compagnie. Comment expliquez-vous justement que finalement ce patriotisme économique hein, que l'on a vécu pendant cette crise Covid où on s'est rendu compte qu'il était important de privilégier le Made in France, on s'est aussi rendu compte finalement on avait délocalisé trop de production, on a le sentiment que finalement il ne reste pas grand-chose de tout ça?
Alors je vais vous dire, il y a encore des illustrations de la manière dont nous nous bloquons nous-mêmes. Lorsque j'ai des discussions, on a eu des discussions avec tous les ministères hein, et toutes les administrations concernées, nous leur avons adressé le détail de toutes les solutions qu'il y a dans le collectif, avec tous les tests de laboratoire que chacun a pu faire. Et donc, nous avons fait cet acte de transparence en leur disant, vous ne savez pas nous contrôler, vous ne savez pas nous certifier, vous ne savez pas nous valider, donc nous allons entreprendre une démarche inverse, nous allons être totalement transparents vis-à-vis de vous. On va tout vous envoyer. Ce qui veut dire que s'il y a un problème, vous nous le diriez.
Et on va essayer de le résoudre.
Et donc, finalement, en ayant cet acte de transparence, sachez-le d'ailleurs, il y a quelques entreprises qui ont dit « Ah non, si vous envoyez tout, nous, on ne veut pas en être. » Donc, ça a fait en soi le tri entre ceux qui étaient très sérieux et qui ont dit « Mais nous, on n'a rien à cacher. Au contraire, on est très fiers de ce que l'on a démontré et de ce que nous avons développé. » Et puis donc, ceux qui n'étaient peut-être pas tout à fait à l'aise ne se sont pas mis dans le collectif. Donc, nous avons inversé le processus. Mais il faut que vous compreniez quelque chose. Si nous n'avions pas pris les devants pour mettre ensemble toutes ces entreprises et afficher. Vous savez que nous avons fait un numéro spécial avec Challenge, j'en suis très fier, on a mis en avant ce collectif avec toutes les solutions et toutes les enseignes qui le composent. Si nous n'avions pas pris les devants, nous serions encore en train d'attendre les administrations. C'est-à-dire qu'elles-mêmes ne sont pas armées pour le faire, d'abord par rapport à la filière que nous rassemblons, ensuite par rapport au Made in France. Eux-mêmes nous disent, vous comprenez bien que si on met la lumière sur des solutions françaises, on a l'Europe qui nous tombe dessus en nous disant, vous n'avez pas le droit de parler des solutions françaises. Donc nous sommes un acteur privé. Et nous avons la liberté de faire ce que nous voulons. Et nous allons continuer. Parce que je suis très heureux de l'accompagnement qui a été fait par la région et qui a accompagné ces poignées de porte de notre partenaire. Mais j'ai un de nos membres qui a développé avec la BPI, avec de l'argent public, des tests salivaires ultra rapides. Il les vend très très bien à l'étranger, il n'en vend pas en France. Pourquoi ?
Là encore, à cause de ce blocage administratif.
Mais il y a un double blocage administratif. Le premier, c'est que les administrations se sentent incapables et désarmées pour reconnaître l'efficacité d'un certain nombre de produits. Et parallèlement à cela, nous avons énormément d'acheteurs en France qui sont habitués, dès lors qu'il y a un produit qui touche au sanitaire, à avoir un tampon administratif français. Et quelque part, nous sommes nous-mêmes victimes de nos propres penchants. S'il n'y a pas un tampon officiel de la République française, les gens se disent « Oh ben écoutez, je vais acheter à l'étranger, au moins, c'est des marchés nationaux, mondiaux. Si ça marche dans le monde entier, ça doit bien marcher. » Et donc, il y a une espèce de suspicion vis-à-vis de tout produit français qui n'aurait pas reçu un
tampon
de la République française. Et donc, quelque part, avec Entrepreneurs pour la République, nous essayons de nous y substituer. Et d'ailleurs, nous sommes en train d'organiser, avec des autorités publiques, la manière dont ils vont pouvoir nous recevoir, parce qu'au moins, en termes de com' ou en termes d'événements, ils ont une capacité à faire. Mais vous voyez dans quelle situation un peu paradoxale
nous
justement,
comment faire pour avancer ?
Alors d'abord, je veux vous dire, il y a ce dicton que j'aime énormément. Comment on fait pour commencer ? Il faut commencer. Et donc, nous avons déjà rassemblé l'ensemble de ce comité qui est ouvert. Hein. Ce comité,
donc, s'il y a d'autres entreprises qui nous écoutent et qui souhaitent rejoindre le comité.
Absolument, qui ont fait des tests, qui ont fait des marquages chez eux, qui ont fait des certifications, ils sont totalement les bienvenus.
Comment vous rejoindre ?
Alors, sur la plateforme Entrepreneurs pour la République, on se met sur le comité, je souhaite rejoindre le comité et instantanément, on ouvre le dialogue avec eux et on vérifie le type de certification qu'ils ont et ils peuvent le rejoindre. Et nous sommes en train d'organiser avec les autorités publiques, avec Bercy notamment, et on a également rencontré Matignon. Donc aujourd'hui, le dialogue est totalement à la recherche de la bonne formule. Mais je trouve ça fascinant. Il faut que vous me compreniez que nous avons un problème à résoudre ensemble vis-à-vis de l'organisation de notre pays. Il n'est pas concevable que vous ayez des entreprises extraordinaires et innovantes, actives
ingénieuse,
et mobilisées.
Ouais.
Et un niveau de strate d'interlocuteurs politiques qui se disent il faut qu'on avance ensemble. Et au milieu de tout cela,
une espèce d'ingénierie
administrative qui dit « Ah ben non, il y a la norme machin. Ah ben non, il y a Bruxelles. Ah ben oui, mais c'est pas mon domaine de compétence. Ah ben oui, mais là, je vais marcher sur les plates-bandes du voisin. » Nous ne pouvons pas continuer à avoir un pays qui est bloqué à cause de rouages administratifs qui dysfonctionnent. On va les mettre de côté et on va avancer ensemble parce que dans les échelons de région, et là on en a eu un témoignage, comme dans les échelons politiques, collectivement, avec les entrepreneurs innovants français, il y a une volonté d'avancer. Il n'y a aucune raison pour qu'on reste bloqué sur le bord du chemin.
On arrive déjà à la fin de cette émission. C'était passionnant de vous écouter. Du coup, on ne voit pas le temps passer. Alors je tenais juste à préciser que ce que vous venez d'évoquer, ça ne touche pas que cette ce que ces entreprises autour justement de ces solutions anti-Covid. Hein. C'est vraiment dans tous les domaines possibles.
Il n'y a pas un seul registre des problématiques d'intérêt général, que ce soit dans le domaine de l'environnement, de l'éducation, de la reconstruction des banlieues, de l'inversion de notre balance commerciale française qui est déficitaire depuis 40 ans, alors que nous avons tout le moyen d'avancer. La problématique des ports, il y a eu un appel sur Marseille qu'il faut aider. Il faut que nous levions
ce blocage administratif,
des bataillons d'entrepreneurs pour apporter des solutions partout. Et croyez-moi, les problèmes administratifs, on les balayera.
Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Léonidas Kallogiropoulos.
Merci
le manifeste des entrepreneurs pour la République. Merci
aux éditions Ballant.
Aux éditions Ballant, effectivement, avec le numéro Challenge, hein, vous le disiez à l'instant, qui a consacré justement une partie de ce numéro-là à ce manifeste. Merci, Alexandra Dumont, de Bronzalois. Merci pour votre témoignage.
Très bonne journée.
Merci, bon dimanche également.
Merci à vous, merci infiniment.
Allez, on va se quitter une poignée de secondes et on se retrouve juste après avec Thibaut, notre French Trotter. À tout de suite.
Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma.
Nous voilà de retour dans C'est ça la France, l'émission consacrée au savoir-faire français et aujourd'hui aux entrepreneurs, les entrepreneurs pour la République. Allez, il est temps d'aller retrouver Thibaut, notre French Trotter.
Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut, le French Trotter.
Et cette semaine, Thibaut, je crois que vous allez nous parler d'artisanat. Bonjour Thibaut.
Et oui Nathalie, et plus précisément dans le secteur du textile et de la maroquinerie, car j'ai rencontré une créatrice qui fabrique elle-même des pièces en cuir ainsi qu'une ligne de vêtements. Elle s'appelle Ilana.
Elle est installée où ?
Elle est installée entre Lot et Garonne, où elle a son atelier, et Lectour dans le Gers, où elle possède une boutique. Et pour vous donner une idée de son travail, on va aller écouter nous raconter comment elle réalise un sac besace en mélange de cuir.
Alors comment on le fabrique ? Ben, à l'origine, il y a une peau. Donc là, en l'occurrence, c'est de l'agneau, donc c'est une petite peau qui est assez souple. Quand on part de la peau, il faut dans un premier temps couper, donc on a des gabarits. Donc avant ça, il y a tout un travail de modélisme en fait, donc stylisme d'abord parce qu'il faut pouvoir dessiner un modèle. Ensuite, il y a le patron à faire, c'est donc pour projeter en 3D le montage en volume, en tout cas du sac en question. Donc à partir de là, on a des gabarits. D'accord. Les gabarits, on les pose sur les peaux, on coupe. On va ensuite parer, c'est-à-dire qu'on va affiner la peau tout autour où les coutures sont prévues pour pouvoir piquer sans... Ça s'appelle le parage. Ensuite, il y a quelques éléments de... Mais ça peut arriver avant, ça dépend du montage, ça arrive avant d'ailleurs souvent. Il y a quelques éléments de... Il y a des apprêts métalliques là, comme là par exemple, il y a des œillets en métal. Et puis des boucles qui permettent d'assembler ou de venir d'accueillir la sangle. La bandoulière, voilà, il y a la bandoulière à prévoir par ailleurs, donc ça c'est plutôt les petits sacs qui sont en tout cas tout ce qui est plutôt sac à main.
Et donc l'essentiel du travail se fait sur cette grosse machine qui s'appelle une pareuse, c'est ça? Alors comment elle fonctionne?
Alors on fait passer la partie du cuir qui va être piqué, en fait, toutes les longueurs là sur les côtés où il est prévu de piquer, de passer la machine à coudre, en fait, et bien là, on va affiner cette partie-là pour avoir, comme je vous disais, des coutures, des jolies coutures bien soignées et que ça ne fasse pas des petits boudins comme ça. Donc, on passe le cuir là. Je ne vais pas la mettre en marche parce que ça fait un certain bruit, ouais, on s'entendra plus.
C'est magnifique cette machine, c'est une très belle machine. On peut la dégrer pour les auditeurs.
Une grosse machine qui doit faire un bon mètre de hauteur, un mètre cinquante de large et avec une tête en comment on appelle ça, en fonte, ouais. et puis une grosse lame qui tourne comme ça et qui permet donc d'affiner le cuir.
Eh bien, dis donc, une grosse machine avec sa tête en fonte. Effectivement, on a bien envie de l'avoir, cette machine. Vous avez dit qu'Ilana propose aussi une ligne de vêtements, c'est bien ça?
Oui, exactement. Et même, elle a un truc pour bien choisir ses matières premières sur lesquelles elle est très exigeante.
J'aime l'idée de proposer les matières que je choisirais pour moi. Et j'ai la chance de travailler avec une maison parisienne qui, depuis plusieurs générations, récupère des rebuts de collection et des anciennes saisons de tissus de grandes maisons de couture françaises. Mais il faut savoir que même chez les grands couturiers, aujourd'hui, il y a pas mal de mélanges. Donc j'ai cette exigence-là aussi. Je suis toujours avec mon briquet, en fait, quand je vais dans ces grands hangars là, parce que parfois, mais oui, parce qu'ils n'ont pas toujours les contextures, elles ont parfois disparu, donc pour savoir un peu ce que j'achète et pour m'assurer en tout cas du fait qu'il n'y ait pas de mélange plastique du tout,
je brûle. Donc vous brûlez, vous voyez comment la matière se consume.
Exactement. Mais voilà, j'ai cette exigence-là aussi, c'est que même chez les grands, je ne prends pas de mélange. Quand c'est des draps de laine, ce sont des draps de laine purs. Il y a parfois du cachemire, ou il peut y avoir parfois des mélanges avec un peu de coton ou quoi, mais il n'y a pas de, il n'y a pas du tout de pétrochimie.
Où est-ce qu'on peut découvrir le travail d'Ilana en deux mots, Thibault? On arrive
déjà à la fin. En deux mots, dans son magasin, Galerie Nationale avec Tours, également sur son Instagram, Galerie Nationale tout attaché.
Merci beaucoup, on arrive déjà à la fin de cette émission. Merci à vous, chers auditeurs. Alors, si vous souhaitez lire donc, le livre de Léonidas Kalogiropoulos, Le Manifeste des Entrepreneurs pour la République, c'est aux éditions Ballant. Allez, je vous souhaite à tous un très très bon dimanche. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure et même radio. Et d'ici là, portez-vous bien. Bon dimanche à tous.